C'est pas grave, ça fait un peu d'action, tout ça, c'est un peu de... D'accord. Chers amis, bonjour. Alors, Bézard Hachem, jeudi, c'est la Iloula, le Yortzeit, le jour anniversaire de la mort d'un très grand personnage du peuple juif, qui s'appelait, comment il s'appelait ? Rabbi Israël Meir à Kohen Kagan de Radin, alias le... Hafetz Haïm, ils disent comme ça les Français, le Hafetz Haïm, d'accord ? Le Hafetz Haïm, c'était un très grand personnage dans les 100 dernières années. Il n'y a pas eu un personnage comme le Hafetz Haïm. D'accord ? Vraiment, on peut pas, on n'est pas des, comment dire, des mesureurs de tzidkout. Mais bon, tous les rabbanim de la génération, de sa génération, ont tous, à l'unisson, dit que c'était lui vraiment le Gdol Hador, et c'est un grand personnage. Donc vous savez, il a écrit plusieurs livres, entre autres le livre qu'on appelle en son nom, à savoir Hafetz Haïm, qui est un ouvrage colossal qui traite des lois du Lashon Hara. Et mis à part ça, il a écrit un autre livre très important qui s'appelle le Mishnah Berurah. D'accord ? Mishnah Berurah, c'est un livre d'Halakha extrêmement connu, extrêmement populaire, extrêmement... basique aussi, c'est vraiment la base de la halakha aujourd'hui qu'on étudie, la halakha sur le Orach Haïm, on étudie le Mishnah Berurah. Sfaradim, Ashkenazim, tout le monde étudie ça. Après, chacun il regarde les détails, comment il fait les réglages avec son minhag. Mis à part ça, le Hafetz Haïm a écrit encore d'autres livres. Il a écrit des livres sur les lois concernant les sacrifices. Il s'est dit, pourquoi si demain, Bezrat Hashem, il y aura on va reconstruire Beth Amikdash, alors il va falloir commencer à faire la avoda du Beth Amikdash. Et donc il a étudié en long, en large et en profondeur toutes les lois du Beth Amikdash, tout ce qui est lié au sacrifice. Bon, c'est un monsieur qui n'a pas chômé durant sa vie. Chaque seconde de sa vie était utilisée. Vraiment, à la fin de l'année, quand il faisait le Cheshbon Nefesh, de comment est-ce qu'il avait utilisé son temps. Alors il se rappelait, il a perdu 2 minutes, 3 minutes dans l'année. Vraiment, chaque seconde de sa vie, elle était calculée. D'accord, il n'a jamais perdu de temps. Bon, en tout cas, il y a beaucoup d'histoires à raconter sur lui, et Bezrat Hashem, je vais en raconter quelques-unes. Alors, on va commencer par le début, si vous voulez bien, d'accord ? Alors, le Hafetz Haïm, déjà, il faut savoir que déjà, tout petit, c'était un Iloui. Quand il est né, déjà, c'était un génie, d'accord ? Il n'est pas né idiot, il est né vraiment déjà très intelligent, et c'était un Iloui. Son père, d'accord, qu'il n'a pas connu, son père, il est mort quand il avait 11 ans, Il lui avait pris un prof particulier qui lui enseignait la Torah. Arrivé à un certain moment, le prof lui dit au père, il dit, écoute, ton fils, il est trop fort, moi j'ai plus rien à lui apprendre, donc à mon avis, tu dois le prendre et l'emmener à Vilna. À Vilna, là-bas, c'était ce qu'on appelait la Jérusalem de Lituanie. C'était une ville où il y avait des centaines de Talmidei Chachamim qui connaissaient la Torah dans tous les sens. D'accord ? Un niveau hors du commun de Torah là-bas. Et dans la ville là-bas, à Vilna, il y avait un endroit qui s'appelait le Cloys. Le Cloys, c'était vraiment l'endroit où il y avait tous les gros calibres, tous les grands talmidim qui étaient là-bas. Et lui, à 11 ans, il était rentré là-bas au Cloys. D'accord ? Donc imaginez-vous le niveau qu'il avait, c'était déjà quelqu'un de très 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 fort. Maintenant, ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que là-bas, il y avait un bonhomme aussi qui fréquentait cet endroit-là et qui était... Un rachat. C'est quoi un rachat? Un impie. Mais je vous la raconte autrement l'histoire. Il y a un jour, il y a un Américain, il arrive à Radin, donc Radin c'était la ville du Hafetz Haïm, et il passe là-bas Rosh Hashanah. Et qu'est-ce qu'il entend? En plein milieu de la tefila, le Hafetz Haïm, on sait que toute sa vie il a fait attention à ne pas sortir un mauvais mot de sa bouche, une parole de la Lashon Hara, tout d'un coup, il entend le Hafetz Haïm dire Adam à Cohen, Imarchemo Veziro. C'est quoi Adam HaKohen? Il y a un bonhomme qui s'appelait Adam HaKohen. Je me rappelle plus, je m'excuse, les initiales de Adam. C'était le nom d'un bonhomme. HaKohen, que lui aussi était Kohen. Et qu'est-ce qu'il a dit? Imarchemo Veziro. C'est quoi Imarchemo Veziro? Que son nom soit effacé, son nom et son souvenir soient effacés. C'est la pire des malédictions qu'on peut proférer contre quelqu'un. Et donc cet Américain-là, un touriste qui arrive à Radin, dans l'Ishiva du Hafetz Haïm, il entend le Rav lui-même dire une telle malédiction. Il dit « Waouh, c'est quoi cette histoire-là ? C'est terrible, non ? Pas terrible ? Vous faites des têtes, on dirait que c'est normal, non ? C'est terrible. » Et alors là, il se dit « C'est pas possible. » Et donc, il demande à quelqu'un, il dit « Mais c'est quoi cette histoire ?» Et le bonhomme, il lui explique, il dit « Quoi, tu connais pas l'histoire ?» Il dit « Adam à Cohen, là-bas, dans la ville de Vilna, il y avait un monsieur qui était très important, qui avait un poste important, c'était un rabbin apparemment, qui a commencé, et quand il est arrivé, il a vu le Rav Israël, il a vu le petit Israël Meir, il a commencé à lorgner dessus, et il a commencé à lui parler. Le problème, c'est que cet homme-là, c'est un rachat, un vrai rachat, un impie notoire terrible. Et comment est-ce que... C'est comment un rachat? C'était un masquil de l'époque. C'est quoi le masquil de l'époque? C'était la Ascala, c'est ce qu'on appelle en français... Ouais, les Lumières, mais c'est un autre nom. Les émancipés, d'accord? Le monde émancipé, les émancipés. C'est, on va dire, les ancêtres de toutes les sectes réformistes. Aujourd'hui, les réformistes, les sectes réformistes, à l'origine, ça vient de ces gens-là, des émancipés, d'accord? Eux, ils disaient, Mendelssohn, ils disaient, sois juif chez toi et dehors, sois un homme. Bon, on peut expliquer la façon, la phrase de plusieurs façons. Mais bon, en tout cas, c'est clair et net qu'ils avaient une volonté de réformer la Torah, d'arranger la Torah et de mettre la Torah au goût du jour. En tout cas, ce Adam Cohen, qui était apparemment aussi un Tamid Raham, il faisait partie de ça. Mais c'était encore plus ou moins caché. Et il était rave d'une communauté. Et donc, il arrivait au Kloy, il voyait le petit Israël Meir, il a commencé à lui parler. Il commence à lui parler. Et qu'est-ce qui s'est passé? Là-bas, il y avait, dans la synagogue, il y avait un puiseur d'eau. Parce que c'est un puiseur d'eau. À l'époque, il n'y avait pas les robinets. Nous, aujourd'hui, bon, on ouvre le robinet, on a de l'eau. À l'époque, c'était pas comme ça. Il y avait un bonhomme qui allait au fleuve, qui puisait de l'eau avec deux seaux comme ça. Il avait on voit des photos comme ça. On voit des bonhommes avec des barres comme ça et deux seaux. Et. Donc ils allaient au fleuve, ils ramenaient de l'eau, ils remplissaient des cuves d'eau dans les synagogues et tous les endroits. Et comme ça, il vit. Le puiseur d'eau, c'était vraiment le métier le plus bas qui existe dans la société, la pire des choses, le plus bas, c'était les puiseurs d'eau. Et donc, dans cet endroit-là, il y avait un puiseur d'eau qui voyait tous les jours le petit Israël Meir en train de parler avec ce Adam Cohen. Et ça le rongeait. Qu'est-ce qu'il a fait un jour? Il est parti voir le petit Israël Meir, il dit « Israël Meir, qu'est-ce que tu parles avec cet homme-là? Tu sais pas que c'est un rachat, cet homme-là. Tu sais pas comment il se comporte. » Et comment ça veut dire comment il se comporte? Qui sait qui il est réellement? Et le petit Israël Meir, il a tellement eu peur de ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui. Et pendant 3 mois, il s'est sauvé de Vilna. On ne savait pas où est-ce qu'il était pendant 3 mois. D'accord? Et à la fin, il est revenu. Il a su se protéger de ce bonhomme-là. En tout cas, le Chefetz Chaim, tous les ans, il avait l'habitude à Rosh Hashanah de se rappeler de cette anecdote-là. Et tous les ans, il maudissait ce Adam Cohen qui a failli attraper ce petit Israël Meir. Imaginez-vous s'il avait réussi à lui tourner la tête. D'accord? Qu'est-ce qu'on aurait eu? Un Chafetz Chaim réformé? Terrible. Et bon, Hashem, il a été sauvé. Tous les ans, il se rappelait de le maudire. Et bien, il a été maudit, cet homme-là. Pourquoi? Parce que son fils est mort jeune et sa fille est morte. Non, et il n'a pas eu de descendance juif de sa fille. Ça, vraiment, il n'a pas eu de descendance, cet homme-là. En tout cas, le petit Israël Meir, maintenant, il va grandir. Et malheureusement, il va perdre son père. Il va perdre son père jeune. Alors là-bas, il y a plein d'histoires. Qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Comment il va continuer à Vilna? À vivre, en tout cas, sa mère. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se remarier. Elle va se remarier avec un homme. Et à l'époque, aujourd'hui, une divorcée ou une veuve, plus ou moins, elle arrive à s'en sortir. C'est difficile. La vie est difficile, même quand on est veuve et divorcée. Mais à l'époque, c'était terrible. C'est-à-dire, si t'as pas de mari, t'as pas de pendant ça, t'as pas de quoi vivre. Et donc, les femmes qui étaient veuves et divorcées, étaient vraiment données à leur sort. On entend plein d'histoires sur les veuves et divorcées, des histoires terribles. Et Baruch Hashem, elle a réussi à trouver avec qui se marier. Et son mari, apparemment, c'était un homme qui était assez aisé. Bien qu'il soit aisé, le Rav Israël, il n'a jamais voulu profiter de son argent. Il a dit, moi, je reste à Yeshiva, je me débrouille. En tout cas, les années sont passées. Et un jour, cet homme-là, il avait aussi une fille. Il avait une fille. Et cette fille-là, il a eu l'idée de la marier avec qui? Avec le petit Israël Meir. Hein? C'est un bon chidour, ça, pourquoi pas? Le problème, c'est que cette fille-là, comme ça on dit, qu'elle était beaucoup plus âgée que lui. Alors, je ne sais pas ce que c'est beaucoup plus âgé. Et elle n'était pas la fille d'un Tamid Raham. Donc lui, le Rav, c'était un monsieur qui était très bien, enfin son beau-père, quelqu'un de très bien, mais ce n'était pas un Tamid Raham. Et ce n'était pas non plus quelqu'un de très riche. Il avait peut-être les moyens, mais ce n'est pas quelqu'un de très riche. Et à l'époque, les bons Bahour et Yeshivot, qu'est-ce qu'ils faisaient? On les mariait ou bien avec les filles de rabbins, ou bien on les mariait avec des gens qui avaient de l'argent, qui puissent les entretenir toute leur vie, qui puissent étudier la Torah. Aujourd'hui, quand un jeune homme il se marie, qu'est-ce qu'il fait? Il va au kollel, il touche un petit peu de la yeshiva, 2500 shekels, 3000 shekels, sa femme elle travaille, un peu les beaux-parents, on arrive à les parents, les beaux-parents, on s'en sort. Mais à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Donc tu avais absolument besoin de quelqu'un qui te finance. Et donc on choisissait en général les filles de riches. D'accord? Les filles de riches se mariaient avec les tamidei chachamim. Sur ça, il y a plein d'histoires de mariages, de filles de riches avec David. Il y a plein d'histoires très rigolotes. À l'occasion, peut-être on en racontera aussi. En tout cas, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a commencé à chauffer l'histoire. Il a commencé à proposer à sa femme, peut-être qu'on va faire un chidour entre ma fille et ton fils. Et qu'est-ce qu'il a dit sa femme ? Il dit, ma pita, mon fils, mon petit Israël Meir, mais c'est un ilou, c'est un gaon, moi qui suis marié avec ta fille, mais quel rapport ? Et ma pitom, jamais on ne fait pas un mariage pareil. Et qu'est-ce qu'il fait le bonhomme ? Il insiste. À tel point qu'il insiste, qu'il fait une très grosse allusion. Du genre, écoute, s'ils ne se marient pas ensemble, je te divorce. Et donc imaginez-vous la tension à la maison, ça devait être terrible. Et sa mère était prête à divorcer plutôt que de permettre ce mariage-là. Maintenant, cette histoire-là est venue aux oreilles de qui ? Elle est venue aux oreilles du petit Israël Meir. Le petit Israël Meir a dit à sa maman, je crois qu'il avait 17 ans, il a dit à sa maman, Mapito, maman, Chas v'shalom, t'inquiète pas, moi je vais marier avec elle, tu vas pas divorcer. Il dit, Mapito, tu vas pas te marier avec elle, écoute, je sais pas si ça se dit de dire c'est une vieille fille, mais bon, c'est pas une vieille fille, mais bon, à l'époque, c'était peut-être pas, c'était pas le premier choix. Et le Révé Tzraïm, il dit, Mapito, il risque de divorcer, moi je veux pas. Il dit, non, tu vas pas sacrifier ta vie pour moi, t'inquiète pas, moi je vais sacrifier ma vie, je vais marier avec elle. Et il a obligé sa mère à lui permettre de se marier avec elle. Et donc, on annonce à la jeune fille qu'elle va se fiancer avec qui ? Avec Israël Meir. Aïe, 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 vous vous rendez compte cette joie-là ? Une fille qui avait, je ne sais pas, 22, 23 ans, à cette époque-là, qui n'était pas encore mariée, tu lui dis qu'elle va se marier avec le ilouï de la génération. Mais quelle incroyable ! Elle est heureuse, elle est contente. Extraordinaire. En tout cas, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont faire les fiançailles. Entre-temps, il y a son frère à Israël Meir du premier mariage qui entend ça. Et il dit, ma pita, mon frère, il va pas se marier avec lui, avec cette fille-là. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il était, je sais pas dans quelle ville, il va louer une charrette pour aller directement là-bas, pour essayer d'arriver avant les fiançailles, pour annuler les fiançailles, pour tout faire pour pas qu'il se fiance. Et donc, il était sur la route, il roule, et paf, il y a eu un petit accident, la roue, elle s'est cassée, et il a été bloqué pendant 3-4 heures. Et lorsqu'il est arrivé, c'était trop tard. Ça y est, il était fiancé. Et il l'a supplié, il a dit, je paye l'amende. À l'époque, quand on faisait un contrat de mariage, s'il y avait un des deux parties qui décidait de rompre le mariage, alors il y avait une amende. Son frère, il a dit, je te paye l'amende, tu casses, tu restes pas avec elle. Ah, pitom, je vais faire de la peine à une bat Israël, il veut pas. Et il a décidé de se marier avec elle malgré tout. Et son frère, il en a voulu, je sais pas pendant combien de temps, mais pendant un certain temps, il était pas content, il était fâché avec lui. En tout cas, Israël Meir retourne à la yeshiva et il annonce à tout le monde, ça y est, je me suis fiancé. Ah, Mazal Tov, tu t'es fiancé, magnifique, avec qui ? Avec la fille de Bill Gates, avec la fille de je sais pas qui ? Il dit non, avec la fille de mon beau-père. Hein ? Quoi ? La fille de ton beau-père ? Mais t'es fou ou quoi ? Mais c'est quoi cette histoire ? Mais comment tu habilles ? Comment tu vas étudier ? Comment tu vas ? Et ils ont commencé à lui monter la tête. Ils ont commencé à lui monter la tête et à tel point que ça lui a monté la tête, il a eu un doute. Il a dit, c'est un truc, peut-être qu'ils ont raison. Et il ne sait pas quoi faire, il était très embêté. Et à la fin, il va décider de casser le chidour. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il repart de la yeshiva, il retourne chez lui. Seulement, il va rentrer dans un petit village là-bas. Et qu'est-ce qu'il va voir ? Il va avoir une scène qui va tout changer. Il va rentrer, il va avoir une sorte d'émeute. Il s'approche et qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait un bonhomme qui était par terre en train de trembler comme ça. Et apparemment, c'était un bonhomme qui avait eu une crise d'épilepsie. Et il a vu ça, il a eu très très peur. Il a demandé qu'est-ce qui se passe. Il dit, apparemment, il a une crise comme ça. Je ne sais pas si il savait ce que c'était à l'époque. Et là, quand il a vu ça, il a eu un flash. Il a dit, si Hachem, il veut, en hébreu, c'est pas joli, on dit litfokotra. Comment on dit en français litfokotra ? S'il veut t'avoir, d'accord, que tu te sois riche, que tu sois pauvre, s'il veut t'amener une galère, dans n'importe quelle circonstance, t'amener une galère. C'est pas parce que t'es riche ou t'es pauvre, tu vas te marier avec une fille comme ci, une fille comme ça, que tu vas être heureux ou moins heureux. Comme ça, il a compris, en voyant ça. Il a dit, tu vois, cet homme-là, il a l'air bien, d'un coup, il a une crise comme ça. Ça peut arriver à tout le monde, une folie du ciel. Et donc, il a décidé, non. Il dit, non, je me marie avec elle. Je veux pas faire de la peine à une bâtisserelle. Parce qu'imaginez-vous, cette jeune fille qui était en train de préparer tout son trousseau, et on va lui annoncer maintenant qu'elle casse son mariage, c'est terrible. Donc, il a pas voulu faire de la peine, et il a accepté de se marier avec elle. Et il s'est marié avec elle. Maintenant. Lorsqu'il va se marier avec elle, lui, le Révé Tzraïm, il va raconter, il va témoigner qu'il n'y a pas eu une meilleure femme qu'elle. Pourquoi il n'y a pas une meilleure femme qu'elle ? Parce que ce n'était pas une fille de riche. Ce n'était pas une fille qui a grandi dans les grandes villes, à Varsovie ou dans les D'accord, elle n'avait pas l'habitude d'aller à Gucci, ni d'aller se balader là-bas sur les champs ou à Place Vendôme avec des diamants, tout ça. C'était une fille de famille, une fille simple. Et elle lui a permis tout ce qu'il voulait. Elle a jamais eu des espérances. D'accord, Gachmi, matériel très très haute. Fais ce que tu veux. Un jour, il a voulu partir pendant un mois s'isoler dans la forêt pour étudier. Va, mon mari, fais ce que tu veux. Et elle était à la maison, elle s'occupait des enfants, elle a grandi les enfants. Et donc, jamais, elle a empêché de grandir. Et lui, il témoigne, il n'y avait pas une meilleure femme qu'elle. C'est une jolie histoire, mais ce n'est pas fini. L'histoire, elle continue. C'est que cette jeune fille-là, cette maman-là, alors je ne sais pas quel âge il avait. Attends, je vais vous dire quel âge il avait. Il avait environ 70 ans. Sa femme va décéder. Il va perdre sa femme. Maintenant, il a 70 ans, le Chevet Sraïm. Et bon, qu'est-ce qu'on fait, 70 ans? Tu te remaries, tu ne te remaries pas. C'est pas un âge où... Bon, en tout cas, il est tout seul maintenant. Qu'est-ce qui va se passer? Son fils, qui habitait à Varsovie, il entend que son père est tout seul maintenant. Il est tout seul, sa mère est décédée. Qu'est-ce qu'il va décider? De quitter Varsovie et de venir habiter à Radin. Maintenant, Radin, c'est quoi? C'est vraiment un village radin, c'est un tout petit truc. C'est des trucs vraiment Radin, c'est... tout petit village paumé au fin fond de la Russie, personne ne connaît, hein, tout petit truc. Et bon, il décide malgré tout de quitter la grande ville Varsovie. Alors imaginez-vous, il va quitter Paris pour aller habiter à, je sais pas moi, un village inconnu. On ne connaît même pas le nom, on peut pas me donner d'exemple. Et top. Alors lui, bon, il arrive à s'y faire, le fils. Mais le problème, c'est qui le problème? C'est sa femme. Sa femme, elle, d'où elle vient? Elle vient de Varsovie, elle. La grande ville, les grands trucs, elle habite maintenant dans un... dans un kfar avec les moutons et les vaches et les... Elle va habiter là-bas. Et pendant une semaine, un mois, je ne sais pas exactement combien de temps, à la fin, la femme donc de son fils, elle craque, elle dit « Je ne peux plus rester ici. » Elle dit « Quoi, tu peux rester ici ?»« Mon père, le Chevet Sraïm !» Elle dit « Très bien, mais je ne peux plus rester ici. On ne peut pas rester ici. » Et ça, ça arrive aux oreilles du Chevet Sraïm. Et le Chevet Sraïm a dit à son fils, il a dit « Mon fils, elle a raison ta femme, va. Va, retourne à la grande ville, c'est pas pour vous ici. » Elle dit, mais papa, qui va s'occuper de toi? Comment tu vas faire? Au moins, accepte de te remarier. Accepte de te remarier. Et le Rav, il a dit, bon, ok, peut-être tu vas essayer de me remarier. Mais il a dit, tant qu'à faire de se remarier, essaye de se remarier avec une femme qui peut encore avoir des enfants. Et on lui a cherché un chidour, Chevet Sraïm, il avait apparemment 70 ans. Et on a trouvé une dame. On lui a dit, vous voulez faire un chidour, machin, un truc et tout. Quoi, 70 ans, un vieux? Ben, je ne peux pas me marier avec un vieux. Elle a dit, c'est pas, rencontrez-le, voyez. Et elle l'a rencontré, apparemment elle a eu le coup de foudre, elle a vu un personnage, genre du commun, un ange, un malach. Hein. Et elle a accepté de se marier avec lui. Et rien que sur les conditions du mariage, c'est très intéressant, tout un truc à raconter ça à l'occasion. Et ils vont accepter donc, elle va accepter de se marier. Et Mazal Tov, et de cette union va naître une fille. Comment elle s'appelle cette fille-là? Elle s'appelle Feige. D'accord, Feige, la fille du Chevet Sraïm. Plus tard, cette Feige, avec qui elle va se marier? Avec qui elle va se marier? Avec le Rav Zaks. D'accord? Le Rav Zaks, il va avoir des enfants. Et il n'y a pas longtemps, le Rosh Yeshiva de Kamenitz, d'accord? Le Niftar, il n'y a pas longtemps, il y a moins de 5, 6, 7 ans, c'était donc le descendant du Chevet Sraïm. Maintenant, le Rav Steinman, d'accord, chez Ibari, il dit un truc extraordinaire sur cette histoire-là. Il dit, regardez le Chevet Sraïm, de son premier mariage, je ne sais pas combien d'enfants il a eu. Il a eu plusieurs enfants. 5, 6, 7, je ne sais pas combien d'enfants, il a eu plusieurs enfants. De son deuxième mariage, il a eu un seul enfant, une fille. Maintenant, qu'est devenue la descendance du Chevet Sraïm? À quoi il a eu des enfants? Qu'est-ce qu'ils sont devenus, ces enfants? Alors, Ashtayman dit, regardez, c'est terrible. Du premier mariage, ne reste aucune descendance religieuse, juive, comme il faut, de sa première femme. Il y en a qui sont morts pendant la Shoah. Il y en a qui sont devenus communistes et il y en a qui sont complètement partis dans tous les sens. La seule descendance juive, comme il faut, kasher, que le Chevet Sraïm, un grand personnage comme ça, de qui c'est? C'est de sa fille du deuxième mariage qu'il a eu à 70 ans. Regardez comment la vie, elle est faite. Un seul de 70 ans, c'est de...